que nous trouvons à la veille de Tisha B'Av, nous allons réfléchir ensemble sur un certain nombre de thèmes concernant Tisha B'Av. Vous entendez votre... Un certain nombre de points qui nous donneront le canevas de ces réflexions. Et ensuite, après ces analyses, si vous avez des questions à poser, alors ça nous permettra de reprendre l'étude. Bon, bien évidemment, le premier point, c'est l'importance de l'événement historique de Tisha B'Av, et c'est essentiellement la destruction du temple. Par conséquent, nous allons d'abord réfléchir sur ce premier point de la raison pour laquelle l'événement de la destruction du temple, qui, du point de vue des péripéties de ce qui s'est passé, en particulier pour le deuxième temple qui nous était plus proche, quoi qu'il y a 2000 ans, dans la guerre contre les Romains, du point de vue des péripéties des événements, c'était finalement une parmi les péripéties, et pourtant, cela a pris une importance considérable au point que tout le souvenir, à travers les siècles et les millénaires, tout le souvenir qui nous rattachait à l'ancien État d'Israël, l'ancien État de Judée plus exactement, s'est cristallisé autour de cet événement de la destruction du Temple comme catastrophe nationale, beaucoup plus importante peut-être que la perte même de l'indépendance nationale à la suite des différentes conquêtes que la Judée avait subies, et en particulier la dernière, qui avait été la conquête par les Romains. Il y a là un phénomène, si vous voulez, qui a posé une question aux historiens. Comment se fait-il que le peuple juif, le peuple d'Israël en général, a réagi non seulement affectivement, mais spirituellement et nationalement, à cet événement de la destruction du Temple, de façon, semble-t-il apparemment, hypertrophiée par rapport à l'événement proprement dit que cela représentait, un des édifices le plus important, le Beth Amikdash, donc le plus important, mais un des édifices de l'État de Judée, qui a cristallisé autour de lui toute cette somme d'affectivité, si j'ose dire, mais c'est quand même plus que de l'affectivité, puisque je crois que ça ne sera pas exagéré de dire que si le souvenir de notre identité a pu être perpétué à travers les siècles, c'est très long, 2000 ans, 20 siècles, cela a été finalement autour du souvenir et de la liturgie de Tisha B'Av. S'il y a eu dans les temps contemporains, et déjà depuis les siècles derniers, un réveil de la conscience nationale d'Israël, cela n'a pu être permis, à la limite, que parce qu'on avait gardé le souvenir de Tisha B'Av. Donc ce sera un premier point. Qu'est-ce qu'a représenté le temple, le Beth Amikdash, dans la conscience d'Israël, de telle sorte de comprendre pourquoi la destruction du temple a eu, plus que toute autre péripétie, un tel retentissement. Et ensuite, sur un deuxième point, Et là, nous suivrons l'enseignement des grands maîtres de la tradition. La Galoute a donc commencé en tant que telle, non pas seulement en tant que dispersion, nous reprendrons toutes ces notions, mais en tant qu'exil, en tant que Galoute, dans le sens catastrophique du terme, a commencé à ce moment-là. Mais la Galoute est inséparable de l'espérance de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance. Et en particulier, nous avons une tradition importante qui nous dit que le jour même de la destruction du temple, était né le Mashiach, était né le Messie. C'est-à-dire, si nous avions pu obtenir et mériter que cette génération même mérite la Géoula, mérite la délivrance, eh bien, ça aurait été le Mashiach qui serait né le jour de la destruction du temple lui-même, qui aurait été le Mashiach. Et par conséquent, le deuxième point sera la signification du messianisme dans la tradition juive, reliée précisément à cette catastrophe, à la fois religieuse et nationale, qu'a représenté la destruction du temple. Et là, nous aurons à reprendre un certain nombre de thèmes et puis les organiser sur un troisième point, finalement de faire aboutir assez rapidement cette réflexion sur l'état actuel de notre histoire et en particulier la relation entre le retour à Israël que nous sommes en train de vivre et le messianisme d'Israël. Voici donc, si vous voulez, successivement ces trois points. Alors si au cours de ces analyses, des questions se posent à vous, bien, nous essaierons de les prendre à la fin de l'exposé. Bien, d'abord, une première question d'ordre proprement historique. Vous savez, nous savons que tant le premier temple que le deuxième temple ont été détruits le 9 av. Une petite parenthèse, cette année, le 9 av tombe à un Shabbat, par conséquent, le deuil commence déjà depuis... Je vais à Sarbet-Amouz, mais le jeûne proprement dit est reculé à la journée du dimanche. Je veux dire, enfin, peut-être pour certains d'entre vous qui ne sont pas très au courant du détail des usages, très brièvement, comment ça se passe en particulier cette année, c'est-à-dire pendant qu'il est encore Shabbat, à la fin du Shabbat, pendant qu'il fait encore jour, on prend donc le dernier repas de Shabbat qui a à la fois Souda Shlishi et Souda Tamar Shaket, c'est-à-dire c'est la Souda qui interrompt le Shabbat pendant qu'il fait encore jour. Et puis le jeûne se termine le lendemain soir, le dimanche soir, à la sortie des étoiles. Et ce sera un jeûne un peu plus long que d'habitude, puisqu'il commence le Shabbat. Et du point de vue des prescriptions, il n'est permis de fumer que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fumer. Vous comprenez pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, moi qui ai l'habitude de fumer, c'est interdit. En général, toute la journée. Ben, remarquez, là, les minhagim. Comment?
Moi, j'ai toujours entendu que c'est après-midi qu'on pouvait.
Mais.
C'est-à-dire, les minhagim diffèrent un peu suivant les communautés, mais en général, c'est toute la journée. Même s'il y a des prescriptions médicales particulières. Bien. Par conséquent, ça nous fera exceptionnellement 48 heures de suite cette année. Alors, si vous permettez. Bien. Alors, pour ce point d'histoire, nous savons que tant le premier temple, qui a été détruit par les Babyloniens, et au temps du premier temple, il s'agissait déjà du premier royaume de Juda, qui avait été le reste du peuple d'Israël après le schisme. Vous savez qu'après le temps du roi Salomon, il y a eu un schisme, et le pays a été divisé en deux états. L'ancien état d'Israël, qui était l'état du nord, qui avait pour capitale Samarie, et qui groupait la majorité du peuple, des Hébreux, c'est-à-dire les 10 tribus, autour de la tribu d'Éphraïm, de la maison de Joseph. Retenez bien toutes ces indications, ça nous servira tout à l'heure, et qui a été détruit le premier. Il a été détruit à peu près 200 ans avant le premier état de Judée, qui lui était l'état du sud, qui avait pour capitale Jérusalem, et qui était resté fidèle au culte de la Torah, et qui a été détruit par les Babyloniens, en fin de compte, et aussi le Naphab. Le temple de Jérusalem a été détruit, premièrement, le Naphab. Et ensuite, après le retour de l'exil de Babel, qui avait duré 70 ans, au bout de 400 ans, le deuxième état de Judée, fondé par Ezra, Néhémie, et au temps de Cyrus, le deuxième état de Judée a été finalement détruit par les Romains, et le temple de Jérusalem a lui été aussi détruit, le Naphab. Alors, du point de vue d'une mentalité traditionnelle, il n'y a pas à s'étonner qu'il y ait dans la logique ou dans la cohérence du calendrier des jours qui semblent être, non pas destinés, mais en tout cas qui semblent être en particulier qualitativement reliés à certains événements. Par exemple, le fait que Pessah soit le 14 Nissan, cela tient non seulement au fait que l'événement de Pessah a eu lieu le 14 Nissan, mais cela tient aussi à la nature de ce jour dans l'année, le 14 Nissan, qui fait que l'événement a lieu ce jour-là et pas un autre. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. C'est-à-dire, dans la cohérence traditionnelle du calendrier, il y a une qualité des jours. Les jours ne sont pas uniformes, le temps n'est pas uniforme. Il y a une qualité, je crois que c'est le terme, qui fait que, au bénéfice d'un certain nombre de connaissances préalables, on n'a pas à s'étonner que tel ou tel événement advienne tel jour plutôt que tel autre. Mais pour une mentalité, disons, non traditionnelle, non habituée à ce genre d'évidence, alors une question se pose, comment se fait-il que, par coïncidence, ou y aurait-il là une coïncidence, ce soit Dafka le Naphab, que cet événement ait lieu deux fois de suite. C'est-à-dire que lorsque le temple a été détruit, cela se passe le Naphab. En fait, il n'y a pas seulement là une coïncidence, il y a d'une part, enfin nous retiendrons l'explication traditionnelle, c'est qu'il y a effectivement une signification du jour lui-même dans l'année qui fait que l'événement se passe à telle époque plutôt qu'à telle autre. Il y a, si vous voulez, pour essayer d'éclairer cela de façon un peu générale, il y a des événements de l'ordre du printemps, alors ils se passent au printemps. Il y a des événements de l'ordre de l'été, ils se passent en été. Il y a des événements de l'ordre de l'hiver, ils se passent en hiver. Il n'est pas étonnant que un événement de l'ordre du matin se passe le matin, et qu'un événement de l'ordre de la nuit se passe la nuit. Mais comme nous vivons dans une civilisation qui a perdu le sens concret de ces relations naturelles entre la durée et les événements de la durée, alors cela nous paraît être un certain nombre de coïncidences. Enfin, ce n'est quand même pas à cet aspect, à ce niveau du problème que nous réfléchirons. Je crois qu'il suffit de noter que cette cohérence du calendrier fait l'essentiel de la liturgie d'une tradition et qu'il est en tout cas normal de commémorer un certain type d'événement à un certain jour de l'année. Mais nous avons une tradition que je voulais vous signaler en commençant, qui est que, en particulier, le 9 du mois d'Ab, et le 9 du mois d'Ab dans la cohérence du calendrier hébraïque, est un jour, Mouchan Lapur Anout, c'est-à-dire qui semble être prêt par sa nature même à ce genre d'événement. Il y a toute une série d'événements catastrophiques qui traversent l'histoire d'Israël et qui apparaissent dans la cohérence du calendrier hébraïque, le 9 Av. Je parlerai très brièvement du premier de ces événements, tel que nous le raconte la Bible. Mais avant cela, je voudrais vous donner un exemple que j'ai probablement souvent déjà cité, que vous avez déjà sûrement entendu. C'est par exemple le jour de Kippour. Vous savez que d'une façon générale, toutes les commémorations du calendrier commémorent un événement historique. Mais je vais intentionnellement isoler le jour de Kippour, le 10 Tishri, qui est un jour important de la liturgie hébraïque, d'abord de la loi de Moïse, de la liturgie juive en général, puisque c'est le jour de l'expiation, et nous verrons tout à l'heure pourquoi cette fonction du temple et de l'expiation dans le temple est importante pour Israël. Eh bien, on peut se demander s'il ne fait pas exception, et quel serait l'événement historique que le jour de Kippour commémorerait. Bien, nous voyons en étudiant les récits de la Torah qu'il n'en est rien, qu'il y a effectivement un événement historique qui fait que c'est le 10 Tishri et pas un autre jour qui devait être le jour de Kippour. Pour cela, je vais rappeler très brièvement un certain nombre d'épisodes historiques, en particulier le 17 Tammuz, qui a été le jour de la destruction de Jérusalem, dans la destruction par les Romains, donc la deuxième fois, la première fois c'était le 10 Tevet. Le 17 Tammuz a lui aussi une préfiguration historique au temps de la sortie d'Égypte, au temps du récit de la génération du désert, c'est-à-dire de la génération qui a reçu la révélation de la Torah. C'était le 17 Tammuz qui a eu lieu la faute du veau d'or. Et c'était le 17 Tammuz, donc, que les tables de la loi ont été brisées. Et puis, donc, correspondance avec le fait que Jérusalem sera détruite le 17 Tammuz. Et la ville. Et puis, comme nous le savons, Moïse a obtenu qu'une deuxième fois les tables de la loi soient rendues, soient données à Israël. Et puis, lorsqu'on fait le compte du temps que Moïse a prié pendant 40 jours, puis pendant 40 jours a reçu les deuxièmes tables de la loi, on s'aperçoit qu'on arrive précisément à la date du 10 Tishri, c'est-à-dire la première fois qu'il y a eu pardon et expiation de la première faute à l'échelle collective, c'était un 10 Tishri. Il y a donc correspondance des péripéties historiques et de cette logique interne du calendrier dont je vous parle. Ceci, c'était enfin une préface très, très rapide, pour indiquer que, à la manière de tous les jours du calendrier, et indépendamment de l'événement historique proprement dit, qui arrive à une certaine époque donnée de la durée de l'histoire, le jour lui-même a une sorte de définition d'identité. Et par conséquent, le 9 Av, c'est le jour du deuil par excellence. L'événement historique dont je vous parlais, à la racine de cette chalchelette, de cette chaîne de péripéties qui se passe à 9 Av, c'était cette espèce de disqualification qui a eu lieu de la génération du désert, et qui est pourtant une génération exceptionnelle, la génération du désert, c'est-à-dire la génération de la sortie d'Égypte. C'est la génération qui a vécu les événements de la libération de l'exil d'Égypte, qui a vécu les événements de révélation pendant tout le temps de la marche au désert, et cependant, il y a eu, si vous voulez, un décalage d'identité entre le niveau d'identité Israël, où se trouvait cette génération, et le modèle qu'elle devait réaliser, et qui lui est donné dans les tables de la loi essentiellement, mais dans toute la révélation de la Torah en ce temps-là, et un jugement littéralement de disqualification qui fait que cette génération a dû mourir dans le désert et n'est pas entrée en Eretz Israël. Il y a eu toute une série de péripéties par lesquelles on voit qu'il y a un décalage d'identité entre ce que Israël a réussi de devenir d'être, si j'ose dire, et puis ce qu'il aurait dû être pour être véritablement le peuple de l'Alliance au niveau de la capacité de l'identité individuelle. à l'échelle collective, Dor HaMidbar, la génération du désert, comme on dit, ce n'est pas du tout une expression péjorative dans la tradition hébraïque. C'est devenu, dans la traduction française, la génération du désert, la génération sacrifiée, la génération des transitions, etc. Mais à l'origine, cette expression est au contraire une expression de shevach, de louange. Dor HaMidbar, c'est Dor Dea, c'est la génération qui a eu la capacité d'être le keli, l'instrument, le véhicule des événements que raconte la Torah. Mais à l'échelle individuelle, il y a eu, si vous voulez, ce décalage qui mène ce jugement de disqualification. Et en particulier, c'est le 9 Av, au temps de la sortie d'Égypte, que ce décret, que cette génération n'entrerait pas dans le pays de la promesse, a été pris. C'était, si vous souvenez bien, à l'époque de la révolte, d'une des révoltes contre Moïse, et où le peuple réclamait de la viande. C'est l'épisode des Cailles. Vous retrouverez donc ce texte. Et c'est là que ce jugement est définitivement scellé, que toute cette génération n'entrerait pas dans le pays de la promesse. Par conséquent, il y a bien, dès l'origine, au premier événement dont nous parle la tradition biblique à ce sujet, une relation entre la situation d'exil poussée à la limite, la destruction de la Géoula, si j'ose dire, cette Géoula de la sortie d'Égypte, qui finalement se perd dans les sables du désert, si on peut s'exprimer ainsi, la Galoute, est décrétée un 9 Av pour la génération qui, non pas à l'échelle collective, mais au niveau de la participation individuelle à cette identité collective, est disqualifiée par rapport à l'identité d'Israël. Ça, c'était l'événement de l'origine. C'est-à-dire, déjà, au temps de la génération du désert, nous voyons se mettre en place ce même diagnostic. Il y a une alliance entre le Créateur et un parmi les peuples du monde, Israël, et la Torah explique, jusque dans le détail le plus infime, pourquoi c'est ce peuple, cette identité-là et pas une autre, une alliance, un contrat, une bérite, et cette bérite est de toutes les façons éternelle, et comment dire, non seulement nitzrit dans le sens de l'éternel, mais elle est inconditionnelle, puisqu'un des contractants de cette alliance est Dieu lui-même. Par conséquent, même l'éventualité que le peuple d'Israël démérite ne peut pas annuler l'alliance. Il n'y a pas de possibilité de changement d'Israël par un autre peuple par rapport à cette alliance, puisqu'il y a cette identité d'origine qui nous vient des patriarches, et que c'est avec les patriarches que cette alliance a été contractée. Il ne peut pas y avoir d'autre ensemble humain, je dis bien à l'échelle collective, qui puisse être la descendance des patriarches. Par conséquent, cette alliance entre le Créateur et Israël est inconditionnelle, même si Israël démérite. Et cela, il faut le comprendre très, très fortement. C'est-à-dire, l'alliance, à l'échelle collective, ne dépend pas du mérite de l'individu. Mais s'il y a une saturation, si vous voulez, d'inadéquation à l'échelle individuelle entre ce que la Torah propose comme modèle pour la collectivité de l'identité des patriarches et l'individu, alors la vérité est quand même rompue. Et nous trouvons là, enfin Dieu lui-même se trouve là devant un problème difficile. C'est que d'une part, l'alliance est inconditionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'Israël sort d'Égypte, c'est irréversible. Ce n'est pas pour rien qu'Israël va entrer en Eretz Israël, c'est irréversible. Ce n'est pas pour rien que c'est à Israël que la Torah a été donnée, c'est irréversible. Et cependant, il y a la possibilité du point de vue de l'homme, mais encore une fois à l'échelle individuelle, d'être inadéquat à cette identité, et par conséquent l'alliance est brisée du côté de l'homme, mais comme elle est éternelle du côté de Dieu, alors il y a impasse. Alors, d'après la tradition du Midrash, c'est l'exil, précisément, c'est l'exil qui permet de résoudre ce problème, de résoudre cette contradiction, comme nous allons le voir plus en détail en abordant le premier. C'est-à-dire, si vous voulez, la dimension de salut du peuple d'Israël, lorsqu'il est dans le cas d'avoir rompu l'alliance, une alliance qu'on ne peut pas rompre, c'est précisément la dimension de l'exil. Pour éclairer déjà un peu cela, c'est un peu trop abrupt pour commencer, je vous citerai simplement cette tradition qui dit que c'est la preuve de l'amour de Dieu pour Israël que le temple a été détruit. C'est un midrash qui semble être paradoxal. Parce que, littéralement, sa colère ne s'est pas portée sur les hommes, mais sur les pierres. Alors là, on comprend mieux. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que le peuple lui-même, en tant que peuple d'Israël, est, si j'ose dire, inassassinable. À la limite, par Dieu lui-même, il est inassassinable, irremplaçable. Parce qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas l'objet d'un choix gratuit. Il n'est pas l'objet d'un choix par hasard. Parce qu'il est, et il est le seul à être, l'identité des patriarches au niveau d'une collectivité. Et nous aurons peut-être à reprendre cette définition, et que c'est avec les patriarches de façon irréversible, je veux dire Abraham, Isaac et Jacob, et ceux qu'ils étaient en tant qu'identité humaine, que cette alliance qui fait l'histoire d'Israël a été conclue par le Créateur. Les textes sont formels, tant les textes de la Bible que les textes de la Torah Shemalpé, Midrash, Mishnah, Gemara, Zohar, etc. Ce n'est pas Israël qui a choisi Dieu. Et quand je dis Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Je ne dis même pas le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Créateur. Celui qui fait que le monde est. C'est cela que signifie, en tout cas pour cette analyse, ce terme de Dieu dans ce problème. Ce n'est pas tellement Israël qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Israël. Parce qu'il s'agissait, au niveau de l'identité des patriarches, d'une identité humaine qui se dirigeait de façon irréversible, en tant qu'Abraham, Isaac et Jacob, vers le modèle de l'homme que Dieu avait voulu créer. C'est parce que ces hommes-là sont devenus tels que Dieu avait voulu faire l'homme que Dieu les a choisis. Est-ce que c'est bien ? C'est-à-dire, il y a évidemment, à l'échelle de notre petite existence individuelle, nous, membres anonymes de la société d'Israël, il y a une sorte de chesed gamour, d'élection gratuite, à l'échelle de notre individualité, mais absolument pas à l'échelle des patriarches. Il y a élection, mais elle n'est pas gratuite. Est-ce que vous comprenez ? Ce ne sont pas n'importe quels hommes que Dieu a choisis. Et à travers eux, et de façon irréversible, il a choisi une identité humaine que nous sommes les seuls, à travers toute l'histoire humaine, à pouvoir représenter, je dis bien, en tant que collectivité. Le drame, c'est lorsque la majorité des individus, si vous voulez, est disqualifiée par rapport à cette identité collective. Lorsque l'alliance est rompue du côté... au fond, du côté le plus faible, c'est-à-dire du côté de l'homme, du côté d'Israël lui-même. Alors, si la sanction de cette rupture de l'alliance devait être portée sur le peuple disparaîtrait. Mais cela n'est pas possible pour les raisons que je viens de dire. Par conséquent, il faut une issue, il faut une soupape de solution. Et alors, c'est ce que dit le Midrash que je vous ai cité en dernier lieu. Alors, entre guillemets, citation, la colère de Dieu se porte sur les pierres, sur la terre, sur le pays, mais non pas sur le peuple. Et alors, que devient le peuple ? Il est détaché, arraché, coupé du pays. C'est-à-dire, c'est la galoute qui permet à Israël ayant démérité de faire que l'alliance se perpétue, de faire que l'alliance joue. Est-ce que c'est bien clair ? C'est-à-dire, ça a l'air d'être paradoxal. Mais au fond, si nous comprenons bien, cela a été notre propre histoire. C'est-à-dire que pendant tout le temps où c'était le temps de la galoute, la seule manière d'exister était d'exister dans cette dimension de la galoute. C'est-à-dire d'être privé du lien de l'alliance avec la terre, parce que l'alliance avec Dieu, elle, ne peut pas être brisée. Vous voyez, c'est une alliance au fond qui a trois termes, entre Dieu et Israël, et entre la terre d'Israël et Israël. Et le Zohar dit... Kouchabrihu, Torah, Ve Israël, Chad. Et c'est ce lien, ce triple lien, qui est réalisé lorsqu'Israël est dans son pays. Par conséquent, enfin, pour résumer cette première remarque, nous voyons que dès le premier événement historique qui est situé le 9 Av, c'est la galoute qui apparaît. C'est-à-dire le fait que Israël ayant démérité, il subsistera comme Israël, mais dans la dimension de l'exil. Quelle est la différence qu'il y a entre l'exil et la dispersion ? C'est un point extrêmement important. Le fait qu'Israël devait connaître l'histoire de la dispersion chez les nations fait partie de sa vocation universelle, fait partie de l'économie même du projet du Créateur pour Israël, et nous aurons à y revenir. Mais le fait que cette dispersion devienne la galoute, devienne l'exil, cela, cette transformation de niveau, si vous voulez, de la diaspora comme telle en galoute, cela, c'est la conséquence de la rupture de l'alliance par Israël. Mais je dis bien, la rupture de l'alliance par Israël à l'échelle collective, ça n'existe pas. Tant qu'il y a une collectivité qui se réclame de l'identité d'Israël et de son histoire, c'est ça, Israël, quelle que soit la valeur des individus. La rupture de l'alliance en question, c'est au niveau des individus qu'elle s'entendait. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, l'identité Israël n'est pas en jeu. L'identité collective d'Israël n'est pas en jeu. Mais comme son incarnation dans une société terrestre, c'est-à-dire les individus, sont en porte-à-faux avec leur charte d'identité, alors cet Israël se subsiste à lui-même sur une voie de garage, si j'ose dire, mais qui a une vocation propre quand même, et qui est la dimension de la galoute. Et cette dimension de la galoute, c'était ce qui est arrivé à la génération du désert. Déjà, ce qui arrive ensuite à la destruction du premier temple, puis ce qui est arrivé à la destruction du deuxième temple. Alors nous avons essayé de comprendre pourquoi cela se caractérise, signifie, ça se cristallise autour de cet événement de la destruction du temple. Je vous avais dit donc qu'il y a une chaîne d'événements de Nafab, je vous ai cité le premier, et puis dans les temps contemporains, on va peut-être d'ailleurs nous servir tout à l'heure, vous me permettez que... Dans les temps contemporains, on sait que la guerre de 1914 a été commencée, déclarée un affaire.
C'est pas ça?
C'était, si je me souviens bien, le 2 août. Moi, j'y étais pas. C'était le 2 août 1914. Et c'était... Ben oui, c'est ça qu'il faut ouvrir. Et c'était un affaire. Alors, inutile de mettre en évidence qu'effectivement, les grandes catastrophes, non seulement à l'échelle universelle, mais celles qui ont atteint Israël, et en particulier, et puis aussi y impliquant les germes de la Géoula, commencent à cette période de la guerre de 1914. Il y avait en germe dans cet événement-là, de cette guerre de 1914, ce qui a été les grands drames de l'histoire d'Israël depuis, et puis en germe aussi la délivrance. Je signerai simplement je peux parler. Erumri. Une convergence dont nous avons peut-être d'ailleurs parlé, que il s'est passé pendant ce temps-là, exactement 1917, la même année, deux événements qui finalement se concrétisent dans ce que nous vivons dans l'histoire contemporaine. C'était d'une part la déclaration Balfour, et puis d'autre part la révolution russe. Alors, essayez d'imaginer comment, finalement, c'est facile à imaginer, comment les événements qui étaient en germe dans cette année-là, de 1917, c'est exactement la problématique historique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part la Géoula, le retour à Israël après la destruction du Temple il y a 2000 ans, très exactement 1900 ans, et d'autre part la mise en place de toute une opposition, plus qu'opposition, de toute une guerre universelle, orchestrée précisément par la Russie, comme on lit dans les journaux, autour et contre Israël. Et contre Israël. Bien, alors abordons maintenant le premier point. Pourquoi a-t-on vu, en particulier dans la destruction du Temple, le signal de la galoute, la catastrophe proprement dite? Comme vous le savez, il y avait déjà une dispersion d'Israël, non seulement dans le bassin méditerranéen, mais dans ce qu'on pourrait appeler le monde civilisé d'alors. Et il y a eu perte de l'indépendance nationale plusieurs fois. Mais lorsque le Temple a été détruit, alors dans la conscience juive, c'était les Judéens à l'époque, partout, il y a eu le sentiment de la catastrophe et que l'on entrait dans une dimension d'identité que l'on savait être provisoire, mais en tout cas catastrophique. C'est à partir de ce moment-là que l'identité juive est devenue ce qu'elle a été pendant tous les temps, pendant tout le temps de la civilisation contemporaine jusqu'à nos jours, jusqu'au dernier temps, c'est-à-dire cette identité d'un être pourchassé, allant d'exil en exil, humilié, défini par toutes les grandes civilisations, surtout celles qui lui devaient l'essentiel, comme étant le peuple maudit, enfin tout ce dont nous venons à peine de sortir. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu ce temps-là, mais ce temps-là, nous l'avons vécu, et nous l'avons vécu dans la vie quotidienne, jusqu'au temps du nazisme, le nazisme y compris. Ce n'est qu'après la dernière guerre, c'est-à-dire après la guerre de 45, que le fait d'être juif pouvait avoir une allure, sinon honorable, mais en tout cas normale. Mais jusque-là, nous avons tous vécu, tous les juifs de tous les siècles, de tous les temps et de tous les paysages, nous avons vécu une espèce d'identité qui n'était pas de ce monde, si j'ose dire. Et ça commence précisément, cette prise de conscience commence à la destruction du temple. Dans cette transformation de la diaspora, qui était une sorte de conquête spirituelle du monde entier par l'identité d'Israël, qui commençait en ce temps-là, et qui se transforme dans la situation méprisée. C'est de Jules Isaac, cette expression, le temps du mépris. Le temps du mépris a commencé à ce moment. Bien, je vous donnerai une explication donc, traditionnelle à ce sujet, nous pourrons y réfléchir. Et il s'agit précisément de mettre en évidence la fonction essentielle et peut-être capitale du rite du temple pour l'identité d'Israël. Je crois que ça tient en deux phrases. C'est parce que l'identité d'Israël comme collectivité est dans les limites même de l'alliance donc, que décrit la Bible en parlant de la bérite d'Israël, qui rend compte qu'on le comprenne plus ou moins à l'échelle individuelle, mais qui rend compte en tout cas de façon certaine à l'échelle collective de ce qu'a été l'histoire réelle d'Israël depuis l'origine, c'est une option à partir des patriarches, une option d'identité pour une certaine collectivité qui est Israël, une option que le sens de l'histoire passe par la réalisation de la morale. Et pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Vous savez, chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que, pour moi, c'est cela. Et, enfin, pour moi, pour l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre. C'est que la société d'Israël n'a d'identité et de vérité que dans cette proposition, c'est le peuple, et c'est le seul au monde de toute l'histoire humaine qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire, c'est le problème moral, et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire. Que tout le reste ne sont que des dimensions secondes du problème moral. Par conséquent, voilà, une collectivité qui accepte ce destin, et c'est parce qu'elle l'a accepté que Dieu lui a proposé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du point de vue de la définition de l'élection, et là il faudrait citer toute la Bible, qui accepte ce destin périlleux, non seulement de vivre, mais d'avoir à être jugé d'après l'adéquation à la charte de la morale. Alors il faut dire, comme disent les textes, qu'à l'échelle collective, eh bien, c'est une réussite permanente et parfaite. À l'échelle collective, Ve'amer kulam tzadikim. À l'échelle collective, Israël, c'est un tzadik gamour. Je dis bien à l'échelle collective. Enfin, maintenant, à l'échelle individuelle, ce qu'on ne peut dire d'aucune nation, à ce niveau-là, toutes les nations, sans aucune exception, c'est Ershaim Gemourim, à l'échelle collective, bien entendu. Et chaque fois que nous avons la tentation de croire qu'il y a une exception, pour nous c'était la France, l'histoire se charge de nous démontrer le contraire. Et je dis encore une fois, à l'échelle de cet anonyme qui parfois arrive à s'incarner dans l'individu qui porte le nom de son pays. La France était la Gaule avant. Et puis finalement, il s'avère que toutes ces tentations d'Israël et finalement n'étaient que des tentations. C'est-à-dire cette tentation de changer son identité de groupe, enfin, son identité de nation, par l'identité d'une autre nation, parce que peut-être c'est cette autre nation qui représente l'incarnation des espérances des prophètes d'Israël et de sa messianité. Je pense qu'on peut dire, au fond, bon, nous nous sommes réunis en tant que francophones, donc autour de la culture française, en tant que telle, enfin c'est le prétexte. Mais je crois que n'importe quel groupe juif ayant vécu la traversée des civilisations pourrait dire cela de la culture à laquelle il était indexé. Je crois qu'effectivement cette tentation a été le propre de toutes les communautés par rapport à la culture goy, de leur paysage goy, et pas de celui du voisin. Pour les juifs allemands, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils en aient dit, il était bien évident que la culture, c'était la culture allemande, et que leur tentation, c'était celle-là, de considérer que, en tant que nation, ils étaient de la nation allemande. Puis pour les Russes, c'était la culture russe. Sachez que pour les Yéménites, c'est la culture yéménite. Et sachez que pour les Corses, c'est la culture corse. c'est ainsi, parce que cela fait partie de la problématique de la distorsion d'Israël, d'être indexé à telle ou telle identité nationale ou à telle ou telle identité culturelle. Oui. Alors je disais que ce qui définit Israël comme peuple de l'Alliance et qui dessine la signification de son histoire exceptionnelle, eh bien, c'est cette option de la moralité. Et je reprends donc la définition. À l'échelle collective, l'histoire a démontré qu'il en est bien ainsi. Il n'y a pas de concept dans une langue comme le français pour exprimer clairement cette différence entre Israël à l'échelle collective et Israël à l'échelle individuelle de chacun. Et en particulier, nous arrivons d'un prisme culturel dont les catégories ont fait éclater un peu ces évidences proprement hébraïques par le fait que nous n'avons plus de concept pour définir cette identité globale de cette manière d'être homme qui se nomme Israël, à la fois participation à une nation et à la fois par le credo individuel, participation à une religion. Dans la culture occidentale, l'unité de ces concepts a été éclatée. Mais essayons quand même de nous habituer à penser dans ces perspectives. Cette identité collective qu'on appelle peuple, communauté ou nation, et qui se nomme Israël, en tant que telle, elle a fait la preuve qu'il s'agit d'un tzadik, c'est-à-dire que Israël, comme collectivité, non seulement obéit, pratique, mais réalise et témoigne de la Torah. Et cela, nous aurons peut-être à y revenir tout à l'heure sur des illustrations plus précises, mais cela, nous le vivons de façon d'autant plus éclatante et évidente qu'il existe, pour la première fois depuis la destruction de l'ancien État de Judée, qu'il existe une société d'Israël et au titre de sa propre identité. Non pas la communauté des Juifs de l'Europe centrale ou orientale, ou la communauté des Juifs de l'Afrique, ou la communauté des Juifs de tel ou tel paysage culturel, mais la société des Juifs à titre d'Israël, c'est-à-dire la société israélienne. Et on peut dire que nous sommes en train de vivre ce témoignage, qui est certainement beaucoup plus perçu par les goïms que par nous, puisque nous sommes dans le bain, ce témoignage de l'apparition subite, mais elle était clandestine pendant tout le temps de l'histoire, de l'apparition sur la scène de l'histoire d'une société qui, en tant que collectivité, apparaît comme justifiant le pari des patriarches que s'il y a un sens à l'histoire humaine, c'est la morale, c'est les valeurs morales, et que c'est ça, la vraie religion, que c'est cela dont nos maîtres parlaient en parlant des valeurs religieuses. J'en prendrai que le dernier exemple journalistique. Vous devinez de quoi je vais parler, je suppose. Cette espèce de chose attendue, d'ailleurs, qui va devenir banale puisqu'elle s'est passée, mais qui est un événement en soi, c'est le fait que les Chablanim se soient rendus à l'armée israélienne en venant de Jordanie. C'est-à-dire que s'il y a au monde une armée dont on attend, et que ça va de soi, et que ça doit aller de soi, dont on attend que si les pires ennemis qui avaient décidé la perte et le massacre à la manière des Hitlériens, et peut-être pire s'ils avaient pu le faire, préfèrent se rendre à l'ennemi en question plutôt qu'à leurs frères arabes, pour les nommer par leur nom, ça doit être Tsahal, ça doit être l'armée de l'État d'Israël, et que ça va de soi, et que... voilà. Donc c'est bien vers Amer Kulam Tzadikim. Parce que si un événement de ce genre était arrivé dans n'importe quelle société humaine dans l'histoire, eh bien, dans les grandes cathédrales, il y aurait eu un tédéum, comme il dit, on aurait célébré cela comme quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais puisqu'il s'agit d'Israël, ça va de soi. Alors, puisque ça va de soi, c'est qu'il s'agit bien d'Israël. Est-ce que c'est clair ? Je crois qu'il faut bien insister là-dessus, parce que, étant donné que pour nous c'est le banal quotidien, et on ne perçoit plus de quoi il s'agit vraiment. Il faut garder cette vigilance, et au fond, une vigilance qu'on risque de perdre en devenant israélien, parce que ça va de soi, cette vigilance du jugement de la conscience juive comme telle, juive de la Gola, sur la conduite humaine en général, pour savoir qu'il y a une différence de nature, et qu'il ne s'agit pas du tout d'une différence de degré. Mais à partir du moment où les événements ont été vécus, historiques, lus dans les journaux, alors c'est banalisé de façon telle qu'on ne se rend pas compte qu'il s'agit là de la kedusha, de la sainteté dont parlaient les textes pour expliquer pourquoi le Créateur a choisi cette manière d'être homme plutôt que. Et je dis bien, les deux choses correspondantes, ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il ne puisse pas y avoir dans les autres sociétés des hommes de cette manière d'être hommes, on les appelle chassidé ou mota olam, mais précisément on le définit à l'échelle individuelle, il y a l'égoïme et puis il y a des chassidé ou mota olam. Ça ne signifie pas qu'à l'échelle individuelle, il n'y ait pas en Israël des chaïm gumurim, on les appelle pocha Israël, ça existe, mais si vous comprenez bien ce que on veut dire par là, c'est qu'à l'échelle collective, Israël est tzadik. Mais voilà, le jugement de l'identité humaine ne porte pas seulement sur cette a posteriori de l'identité collective d'Israël qui a été jugée au niveau des patriarches, et c'est irréversible. C'est ce qu'on appelle le schrutabot. Le jugement de la vie existentielle porte sur les individus. Et voilà que nous sommes des individus embarqués, si j'ose dire, dans un bateau qui ne connaît qu'un seul port, la loi morale. Et à chaque pas, et à chaque marche, et à chaque geste, à chaque conduite, il y a le risque de la faute à l'échelle individuelle. Par conséquent, s'il n'existe pas une liturgie de l'expiation de la faute à l'échelle individuelle, l'identité d'Israël est invivable. Je veux dire, la seule liturgie, la seule religion, entre guillemets, la seule société où il y a un jour de Kippour, c'est-à-dire la liturgie de l'expiation dans le temple de Jérusalem, c'était le judaïsme. Vous trouverez le jour de Kippour nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que nulle part ailleurs, le sens de la vie, c'est la loi morale. Est-ce que c'est bien clair ? C'est l'application de la loi morale. Alors vous comprenez pourquoi, lorsque le temple de Jérusalem, qui assurait cette soupape de purification, de l'expiation pour l'individu, membre d'une collectivité qui n'a d'existence que au nom de la morale, lorsque le temple est détruit, du profond même de l'identité juive, cela a été ressenti comme la catastrophe par excès. Est-ce que c'est bien clair ? Non ? Je ne voudrais pas revenir sur les analyses qui nous expliqueraient pourquoi. C'est sous forme de sacrifice, d'animaux, de nourriture, donc, que la liturgie de l'expiation se fait. Simplement, je voulais indiquer qu'il s'agissait de la prise de conscience que la société d'Israël perdait sa base d'identité à l'échelle individuelle, sa protection, son abri, son magendal, son bouclier, lorsque, à partir du moment où la liturgie de l'expiation disparaît. Parce que il n'y a plus qu'une seule voie de l'expiation possible, de telle sorte de pouvoir rester digne, malgré les déchéances, de cette identité d'Israël se définissant par l'intégrité morale, ce serait les souffrances de l'exil. C'est là que la diaspora, que la dispersion se transforme en galoute, c'est-à-dire en exil. Le signe, c'est que le temple est détruit. Et la cause profonde du fait que le temple est détruit, c'est qu'à l'échelle individuelle, il n'y a plus le seuil minimum de bonne volonté morale qui fait que l'individu coïncide avec l'identité collective d'Israël. Bien sûr, à chaque génération, et même à celle-là, il y a eu des individus d'exception, mais c'est un phénomène de sommation qui fait que, à l'échelle individuelle, le décalage se fait tel qu'il semble qu'il ne s'agisse plus de cet Israël dont parlaient les prophètes, et cependant c'est irréversible, il s'agit de lui quand même. Alors voilà comment la catastrophe a été perçue, le temple est détruit, la galoute va commencer. Est-ce que c'est bien tout? Donc, cela signifie, ce verset que nous disons, « Mi pene hataenu galinu meartsenu » il faut le prendre au chat, c'est à cause de nos fautes que la dispersion se transforme en galoute. Oui, nous revenons à l'équation précédente. Elle est simple. Ou bien, Israël ayant démérité, encore une fois, uniquement à l'échelle individuelle, dans l'Europe, alors Israël doit disparaître, mais Israël ne peut pas disparaître, alors il va persévérer dans son être, si j'ose dire, mais dans cette dimension seconde, dans cette dimension meurtrie, il faudrait dire même crucifiée, on reparlera peut-être de cela tout à l'heure, qu'a été la dimension du juif de la galoute par rapport à l'hébreu ou au judéen, c'est-à-dire à l'Israël, que nous pouvons de nouveau réidentifier maintenant, c'est-à-dire l'israélien de nos jours. Est-ce que vous comprenez bien cette différence? Aujourd'hui d'ailleurs, cette dignité retrouvée de l'israélien par rapport au juif de la galoute se répercute sur le juif de la galoute, sur le juif de la diaspora. Le juif de la diaspora a été anobli de cela. Et nous avons vécu cela, peut-être sans l'identifier. Mais nous le vivons surtout dans les rapports avec les goyim, Chutz La'aretz. Lorsque les goyim s'adressent à des juifs, Chutz La'aretz, eh bien ils s'adressent, au fond, selon eux, à des israéliens. Et c'est pourquoi le juif a perdu cette qualité démoniaque qu'il avait à leurs yeux, parce que c'est l'image de l'israélien, donc de l'hébreu.